Boccace, le Décaméron, cinquième journée, dixième nouvelle. Dionéo raconte son histoire. Vous serez donc, très belle jeune dame, qu'il n'y a pas encore longtemps, il y avait à Salerne un très grand médecin en chirurgie, dont le nom fut maître Mazzeo della Montagna, lequel, parvenu déjà à l'extrême vieillesse, avait pris pour épouse une belle et gentille jeune femme de sa ville, et la tenait fournie de riches vêtements, de joyaux et de tout ce qui peut plaire à une dame plus que tout autre de la ville. Vrai est que, la plupart du temps, elle restait indifférente à tout cela, en femme qui, dans le lit, était mal couverte par le maître. Celui-ci, comme messer Ricciardo di Cizica, dont nous avons parlé et qui enseignait à sa femme à observer les fêtes, disait à la sienne que pour avoir couché avec une femme, on mettait je ne sais pas combien de jours à réparer ses forces et semblables sottises. De quoi elle vivait très mécontente, et comme elle était avisée et de très grand esprit, elle résolut, pour épargner le bien de la maison, de saisir la première occasion et de goûter d'un autre. Ayant observé plusieurs jeunes hommes, elle en trouva à la fin un en qui elle plaça toute son espérance, tout son cœur et tout son bien. De quoi le jeune homme s'étant aperçu, et cela lui plaisant fort, il mit semblablement tout son amour pour elle. On l'appelait Ruggieri da Geroli. Il était de naissance noble, mais de mauvaise vie et de conduite blâmable, tellement qu'il n'avait parents ni amis qui lui voulut du bien ni qui consentit à le voir. Et dans tout Salerne, il était accusé de vol et d'autres méfaits aux civils, de quoi la dame eut peu cure, car il lui plaisait pour autre chose. Aidée de sa servante, elle fit si bien qu'ils purent se trouver ensemble. Au bout de quelque temps qu'ils eurent pris tous deux leurs ébats, la dame se mit à le blâmer de sa vie passée et à le prier, pour l'amour d'elle, de se défaire de pareilles habitudes. Et pour lui faciliter à le faire, elle commença à lui subvenir tantôt d'une somme d'argent, tantôt d'une autre. Pendant qu'ils continuaient ainsi tous deux fort discrètement, il advint qu'il tomba entre les mains du médecin un malade qui avait mal à une jambe. Le maître, ayant vu son cas, dit à ses parents que si on ne lui enlevait pas un os pourri qu'il avait dans la jambe, il faudrait la lui couper ou sinon qu'il mourrait. Et qu'en lui extrayant l'os, il pourrait guérir, mais qu'il ne l'entreprendrait qu'en le considérant déjà comme un homme mort. À quoi ceux à qui le malade appartenait ayant consenti, ils le lui laissèrent pour être opéré dans ces conditions. Le médecin, avisant que le malade ne pouvait endurer la peine sans être endormi, ou ne se laisserait pas penser et devant attendre après vêpres pour procéder à cette opération, fit dès le matin distiller une certaine eau de sa composition qui, bu par le malade, devait le faire dormir autant qu'il pensait mettre de temps à l'opérer. Puis, ayant fait porter cette eau chez lui, il la plaça dans sa chambre sans dire à personne ce que c'était. L'heure de vêpres venue et le maître se disposant à aller vers son malade, il lui arriva un messager envoyé par quelques-uns de ses grands amis de Malfi, avec prière de ne pas manquer, pour quelque cause que ce fût, de s'y rendre sur le champ parce qu'il y avait une grande rixe où beaucoup de gens avaient été blessés. Le médecin, renvoyant au lendemain matin le pansement de la jambe, monta sur une petite barque et alla à Malfi. Pourquoi la dame, sachant qu'il ne devait pas revenir la nuit à la maison, y fit venir Ruggieri, selon qu'elle en avait l'habitude, et le mit dans sa chambre où elle le garda jusqu'à ce que les autres personnes de la maison fussent allées se coucher. Ruggieri étant donc dans la chambre attendant la dame, et ayant, soit par fatigue endurée dans le jour, soit pour avoir mangé trop salé, soit peut-être simplement par habitude, ressentit une grande soif, il vit par hasard sur la fenêtre cette fiole d'eau que le médecin avait préparée pour son malade, et croyant que c'était de l'eau bonne à boire, il la porta à sa bouche et la but tout entière. Il ne tarda guère à être pris d'un grand sommeil et à s'endormir. La dame, aussitôt qu'elle put, s'en vint dans la chambre, et trouvant Ruggieri endormi, elle se mit à le secouer et à lui dire à voix basse de se lever, mais en vain. Il ne lui répondait pas, ni ne bougeait. Pourquoi la dame, quelque peu courroucée, le secoua avec plus de force, disant « Mais lève-toi, affreux dormeur! Si tu voulais dormir, tu devais t'en retourner chez toi et non pas venir ici !» Ruggieri, ainsi secoué, tomba à terre d'une chaise sur laquelle il était et ne donna pas plus signe de vie que n'aurait fait un corps mort. De quoi, quelque peu épouvanté, la dame essaya de le relever et se mit à le secouer plus fort, à le prendre par le nez, à le tirer par la barbe, mais tout était vain. Il avait attaché son âne à une bonne cheville. Alors la dame commença à craindre qu'il fût mort. Cependant, elle se remit encore à lui pincer aigrement la peau et à le brûler avec une chandelle allumée, mais toujours en vain. Pourquoi, elle, qui n'était pas médecin, bien qu'elle eût un médecin pour mari, crut sans plus de doute qu'il était mort. Aussi, l'aimant par-dessus tout, comme elle faisait, il ne faut pas demander si elle fut affligée. N'osant faire de bruit, elle se mit à pleurer en silence sur lui et à se lamenter d'une telle mésaventure. Mais après quelques instants, craignant d'ajouter la honte à son malheur, elle pensa qu'il fallait sans retard trouver un moyen de porter ce mort hors de la maison. Et ne sachant qu'imaginer pour ce faire, elle appela sans bruit sa servante, et lui faisant part de sa mésaventure, elle lui demanda conseil. La servante, fort étonnée, se mit elle aussi à le tirer et à le pincer, mais le voyant sans sentiment, elle dit ce qu'avait dit la dame, c'est-à-dire qu'il était vraiment mort, et lui conseilla de le faire sortir de la maison. À quoi la dame dit « Et où pourrons-nous le porter pour que personne ne nous soupçonne demain matin, quand on le verra, que c'est ici qu'on l'a porté ?» À quoi la servante répondit « Madame, j'ai vu ce soir fort tard devant la boutique de ce menuisier, notre voisin, un coffre qui n'est pas trop grand et qui, si son maître ne l'a pas rentré chez lui, viendra trop à point pour notre cas, car nous pourrons y mettre le corps, après lui avoir donné 2 ou 3 coups de couteau, et nous l'y laisserons. Celui qui y trouvera ne saura pas si c'est ici ou ailleurs qu'il aura été mis. Au contraire, on croira, pour ce qu'il fut un mauvais gardement, qu'en commettant quelques méfaits, il aurait été aussi par un de ses ennemis et mis dans le coffre. » Le conseil de la servante plut à la dame, excepté de lui donner des coups de couteau. Elle dit que pour rien au monde elle n'aurait le courage de faire cela. Ayant envoyé la servante voir si le coffre était toujours là où elle l'avait vu, celle-ci revint et dit que oui. La servante donc, qui était jeune et vigoureuse, aidée de la dame, mit Ruggieri sur ses épaules, et sa maîtresse marchant devant pour regarder si personne ne venait, elles arrivèrent au coffre, mirent le corps dedans, et l'ayant refermé, elles le laissèrent. Le même jour, un peu auparavant, étaient entrés chez eux 2 jeunes gens qui prêtaient à usure et qui, désireux de gagner beaucoup et de dépenser peu, se trouvaient avoir besoin de meubles. Ils avaient vu la veille le coffre et avaient projeté ensemble, si on l'y laissait pendant la nuit, de l'emporter chez eux. Minuit venu, ils sortirent de leur logis, et trouvant le coffre à la même place, sans l'examiner davantage, ils le portèrent promptement chez eux, encore qu'il leur parut lourd, et le placèrent à côté d'une chambre où leur femme dormait, sans songer pour le moment à le ranger convenablement. Et l'ayant laissé là, ils s'en allèrent dormir. Le matin venu, Ruggieri, qui avait fait un grand somme et avait déjà digéré le breuvage éprouver jusqu'au bout sa vertu, se réveilla, et bien que le sommeil fût rompu et que ses sens eussent recouvré leur pouvoir, il lui restait cependant dans la cervelle une stupéfaction qui, non seulement cette nuit, mais pendant quelques jours, le tint tout étourdi. Ayant ouvert les yeux et ne voyant rien, il étendit les mains de ça, de là, et se trouvant dans ce coffre, il se mit à appeler et rappeler ses souvenirs et à se dire « Mais qu'est-ce que cela? Où suis-je? Dors-je ou suis-je éveillé ?» Je me souviens pourtant que ce soir, je suis entré dans la chambre de madame, et maintenant il me semble que je suis dans un coffre. Que veut dire ceci? Le médecin serait-il revenu ou un autre accident serait-il arrivé pour lequel la dame, pendant que je dormais, m'aurait caché là-dedans? Bon, je le crois, et très certainement il aura été ainsi. Et pour ça, il se mit à rester tranquille et à écouter s'il n'entendait rien. Étant demeuré ainsi assez longtemps et se trouvant fort mal dans le coffre, qui était petit, se sentant tout meurtri du côté sur lequel il était couché, il voulut se tourner sur l'autre, mais il le fit si adroitement qu'il heurta des reins une des parois du coffre qui n'avait pas été posée sur un plancher bien égal, et qu'il le fit basculer et tomber. En tombant, le coffre fit grand bruit, pourquoi les femmes qui dormaient à côté se réveillèrent et eurent peur, et de peur se turent. Ruggieri ne savait que penser de la chute du coffre, mais le voyant ouvert par sa chute même, il pensa qu'il valait mieux si autre chose survenait en être hors que dedans. Et comme il ne savait où il était, imaginant tantôt une chose, tantôt une autre, il se mit à aller à tâtons par la maison pour voir s'il trouverait une porte ou un escalier par où il pût s'en aller. Les femmes qui étaient réveillées, entendant le bruit qu'il faisait, se mirent à dire « Mais qui est là ?» Ruggieri, ne reconnaissant pas la voix, ne répondit pas. Pourquoi les femmes se mirent à appeler les deux jeunes gens ? Mais ceux-ci, pour ce qu'ils avaient trop veillé, dormaient fortement et n'entendaient rien du tout de ce qui se passait. Alors les femmes, devenues plus peureuses, s'étant levées, coururent à une fenêtre et se mirent à crier « Au voleur! Au voleur !» Pourquoi bon nombre de voisins accoururent de tous côtés et entrèrent dans la maison, qui par le toit, qui d'un côté, qui d'un autre, et semblablement les jeunes gens, réveillés à ce bruit, se levèrent, et voyant la Ruggieri quasi hors de lui d'étonnement, et qu'il ne voyait pas par où il devrait ou pourrait fuir, ils le mirent aux mains des familiers du gouverneur de la ville, qui étaient déjà accourus au bruit. Et ayant été mené devant le gouverneur, celui-ci, comme il était tenu pour un très grand mauvais homme, le fit mettre sur le champ à la torture et confesser qu'il était entré dans la maison des usuriers pour voler. Pourquoi le gouverneur pensa qu'il convenait de le faire pendre par la gorge sans le moindre retard. La nouvelle se répandit dans la matinée par tout Salerne que Ruggieri avait été pris à voler dans la maison des usuriers. Ce que la dame et sa servante apprenant, elle fut remplie d'un tel étonnement qu'elles étaient bien près de se persuader à elles-mêmes que ce qu'elles avaient fait la nuit précédente, elles ne l'avaient pas fait, mais qu'elles l'avaient rêvé. En outre, la dame éprouvait un tel chagrin du péril où se trouvait Ruggieri qu'elle était sur le point d'en devenir folle. Un peu après la troisième heure, le médecin, de retour de main, demanda qu'on lui apportât son eau pour ce qu'il voulait guérir son malade. Voyant la fiole vide, il fit un grand vacarme, disant qu'on ne pouvait rien conserver dans cette maison. La dame, qui était stimulée d'une autre douleur, lui répondit en colère « Mais que diriez-vous, maître, pour une chose importante, puisque vous faites si grand bruit pour une fiole d'eau renversée ?» À quoi le maître dit « Femme, tu crois que cette eau était de l'eau claire, mais il n'en est pas ainsi, bien au contraire. C'était une eau travaillée pour faire dormir. Dès que la dame eut entendu cela, elle s'avisa que Ruggieri l'avait bu et que c'était pour cela qu'il lui avait paru mort, et elle dit « Maître, nous ne sauverons pas, pour somme, faites-en d'autres. » Le maître, voyant qu'il ne pouvait en être autrement, fit faire une nouvelle. Peu après, la servante, qui par ordre de la dame était allée savoir ce que l'on disait de Ruggieri, revint et lui dit « Madame, tout le monde dit du mal de Ruggieri, et d'après ce que j'ai pu entendre, il ne se trouve aucun parent, aucun ami qui se soit dérangé et qui veuille se déranger pour lui venir en aide. » Et l'on croit bien que demain le stadico le fera pendre. Et en outre, je veux vous dire une chose, car il me semble avoir compris comment il est arrivé dans la maison des usuriers. Et écoutez comment. Vous connaissez bien le menuisier devant lequel était le coffre où nous le mîmes. Il était tout à l'heure avec un individu qui prétendait que le coffre lui appartenait, car il lui a réclamé le prix. Et le menuisier disait qu'il n'avait pas vendu le coffre, mais qu'il lui avait été volé pendant la nuit. Alors à quoi celui-ci disait « Il n'en est pas ainsi, mais tu l'as vendu aux deux jeunes usuriers, ainsi qu'ils me l'ont dit cette nuit quand je l'ai vu chez eux au moment où Ruggieri a été pris. » À quoi le menuisier disait « Mais ils mentent, pour ce que je ne l'aurais jamais vendu, mais ce sont eux qui la nuit dernière me l'ont volé, allons les trouver. » Et ils sont allés d'un commun accord à la maison des usuriers, et moi je suis venu ici. Et comme vous pouvez voir, je comprends bien de quelle façon Ruggieri a été transporté là où il a été trouvé. Mais comment il est ressuscité, je ne puis le voir. La dame, comprenant alors parfaitement comment la chose était arrivée, dit à la servante ce qu'elle avait appris du maître et la pria de l'aider à faire échapper Ruggieri en femme qui, si elle voulait, pouvait d'un seul coup délivrer Ruggieri et lui conserver l'honneur à elle. La servante dit « Madame, enseignez-moi comment, et je ferai volontiers tout ce qu'il faudra faire. » La dame, aiguillonnée par sa passion, ayant avisé rapidement ce qu'il y avait à faire, en informa de tout point la servante. Celle-ci s'en alla tout d'abord trouver le médecin, et pleurant, elle se mit à lui dire « Messire, je dois vous demander pardon d'une grande faute que j'ai commise envers vous. » Le maître dit « Et qu'est-ce ?» Et la servante, ne s'arrêtant pas de pleurer, dit « Messire, vous savez quel homme c'est que Ruggieri d'Algeroli ? Lui ayant plu, autant par peur que par amour, j'ai consenti il y a quelque temps à devenir sa maîtresse. Sachant qu'hier vous n'étiez pas ici, il me pressa tellement que l'introduisant chez vous, je le menais coucher avec moi dans ma chambre. Et comme il avait soif et que je n'avais pas le temps de chercher de l'eau ou du vin, ne voulant pas d'ailleurs que votre femme qui était au salon me vît, et me rappelant avoir vu dans votre chambre une fiole d'eau, j'allais la chercher, je la lui donnais à boire, puis je la remis où je l'avais prise. Et je vois que vous avez fait à ce sujet un grand bruit dans la maison. Et, oui, certes, je confesse que je fis mal, mais quel est celui qui n'a pas mal agi, quelquefois? Je suis très marri d'avoir fait cela, non pas tant pour la chose elle-même que pour ce qui en est suivi, car Ruggieri est sur le point d'en perdre la vie. Pourquoi, autant que je peux, je vous prie de me pardonner et de me permettre d'aller lui venir en aide en ce que par moi se pourra. » Le médecin, entendant cela, quelque colère qu'il eût, répondit en souriant « Tu t'en es donné à toi-même le châtiment, puisque là où tu croyais avoir cette nuit un jeune homme qui t'aurait bien secoué la pelisse, tu as eu un méchant dormeur, et pour ce va et vois à sauver ton amant, et dorénavant garde-toi de plus le mener dans la maison, car je te le paierai cette fois et de l'autre. » La servante, estimant que pour la première tentative, elle avait bien opéré, aussitôt qu'elle put, s'en alla à la prison où était Ruggieri, séduisit tellement le geôlier que celui-ci la laissa parler au prisonnier. Dès qu'elle l'eut informé de ce qu'il devait répondre à Stadico s'il voulait échapper au péril, elle fit si bien qu'elle parvint jusqu'au juge criminel, lequel, avant de consentir à l'écouter, pour ce qu'elle était fraîche et gaillarde, voulut attacher son croc à la pauvre fille du bon Dieu. Elle, pour en être plus favorablement écoutée, ne fut nullement revêche, et la besogne faite, elle dit « Mais sire, vous avez ici Ruggieri d'Angeroli pris pour un voleur, et c'est pas vrai !» Et commençant par le commencement, elle lui conta l'histoire jusqu'au bout. Comment elle, étant sa maîtresse, l'avait menée dans la maison du médecin, et comment elle lui avait donné à boire l'eau préparée, ne sachant ce qu'elle était, et comment, le croyant mort, elle l'avait mis dans le coffre. Puis elle lui dit ce qu'elle avait entendu entre le menuisier et le propriétaire du coffre, lui montrant par cela de quelle façon Ruggieri avait été introduit dans la maison des usuriers. Le juge, voyant qu'il était facile de vérifier si c'était la vérité, s'informa d'abord près du médecin si ce qu'elle avait dit de l'eau était vrai, et vit qu'il en était ainsi. Puis il manda le menuisier et celui à qui avait appartenu le coffre, ainsi que les usuriers, et après plusieurs investigations, il fut établi que la nuit précédente, les usuriers avaient volé le coffre et l'avaient porté chez eux. Enfin, il fit venir Ruggieri, et lui ayant demandé où il avait été hébergé le soir précédent, celui-ci répondit qu'il ne savait pas où il avait été hébergé, mais qu'il se souvenait bien qu'il était allé coucher avec la servante de Maître Mazzeo dans la chambre de laquelle il avait bu de l'eau à cause de la grande soif qu'il avait, même pour ce qui était advenu de lui après, sinon quand en s'éveillant chez les usuriers, il s'était trouvé dans un coffre, il ne savait pas. Le juge, en entendant ces choses, en éprouva une grande satisfaction et les fit redire plusieurs fois à la servante, à Ruggieri, au menuisier et aux usuriers. À la fin, reconnaissant que Ruggieri était innocent, il condamna à 10 onces d'amende les usuriers qui avaient volé le coffre et rendit la liberté à Ruggieri. Si cela fut agréable à ce dernier, que personne ne le demande. Mais cela fut agréable outre mesure à sa dame, laquelle par la suite, avec son amant et sa chère servante, qui avait d'abord voulu lui donner des coups de couteau, en rit souvent. Et ils festoyèrent joyeusement, continuant leur amour et leurs ébats de mieux en mieux. Et je voudrais qu'il m'advînt ainsi, non, mais non toutefois, d'être mis dans le coffre.